C'est bon, ça.
C'est passé du rock à la pop.
Y a ça quand de la musique au rempart?
Tout le temps. Tout le temps. Y a toujours un DJ.
Même s'il y a personne, là.
Ouais,
DJ Dan.
J'aime beaucoup la musique du warm-up des remparts. Il y a quelques pièces.
C'est celle-là?
Non, mais c'est 15 minutes, donc il y en a plusieurs collées, là.
C'est toujours les mêmes?
Oui.
Je suis fou, celle-là. On dirait qu'elle répète dans Flash Dance, cette tune-là. Ou dans.
Je comprends ton film.
Tu sais, la danse, oui, oui. Là. Puis là, c'est dans Flash Dance qu'elle se vide une chaudière d'eau sur la tête, là.
C'est The Weeknd, hein, c'est ça?
On n'est pas encore dans la chronique musicale. Hein?
Pas encore.
Non. Deux, trois petits scoops, là, on est très... Écoutez, là, j'essaie de respecter l'humeur de Dupont le matin. Hein?
C'est Dupont, toi?
C'est Dupont en vacances, mais je fais un gros effort pour respecter l'humeur de Dupont le matin. Alors, avant les nouvelles extrêmement sérieuses, quelques scoops extrêmement sérieux.
C'est important.
On est à la recherche depuis une couple de jours du fameux bruit qui dérange dans Saint-Jean-Baptiste. Bien évidemment, au fil de mes recherches et de mes enquêtes,
évidemment.
J'ai trouvé c'était quoi. Il y a plusieurs sources pour le même bruit. Tout ça me provient de nos enquêteurs au 25226. Alors, ce serait le tramway qui est déjà en fonction, mais sous terre.
C'est bon.
Avec creuser le tramway, on serait peut-être pas surpris non plus que c'est en train de se passer sous nos yeux. Là.
C'est beaucoup sous terre, hein, les théories. Le tramway sous terre, la plaque tectonique limouloise. Il y aurait une plaque tectonique en dessous de Limoilou.
En constante vibration?
Ouais, là, c'est parce qu'elle est en train de... Ça frotte. Elle est comme arrivée en friction, là, en termes de topographie. On appelle ça la friction tectonique. Alors...
Ça va disparaître éventuellement ou on ne sait pas. Hein?
Ça dépend de la variation binaire Ensuite, il y aurait des... Oui. Il y aurait des extraterrestres dans le sol. C'est tout à sous terre, je vous l'ai dit. Autre raison, mais pour le même bruit, c'est le volcan en dessous de l'île d'Orléans.
Okay.
Vous saviez ça qu'il y avait un volcan en dessous de l'île d'Orléans? Ben, c'est parce que, regarde, si tu veux savoir, il est où? Tu regardes les rocheuses là-bas, il y a les rocheuses. Ouais. Un peu à droite. Et voilà. Et puis, la 5G, évidemment, là, parce que au fur et à mesure de la vaccination, la puce, la 5G, toute la patente, c'est pour ça,
ça s'installe.
Qu'on entend le fameux bruit. Hein, gang, on finit par démystifier et résoudre toutes ces patentes-là. Merci aux individus louches qui nous ont écrit des textos pour découvrir ce qui se passait. À 7h02 en ce mardi 4 mai 2021.
La barre n'est pas trop haute, là.
21. Quelques vraies nouvelles avec Pascal CV. Pascal.
Mon cher, je commence tout avec cette nouvelle-là qui a pas mal fait la journée d'hier. La commission Laurent là, qui a rendu son rapport sur les droits de l'enfant, qui a donné un mandat d'ampleur au gouvernement Legault, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, dont l'adoption d'une charte des droits de l'enfant, un meilleur financement de plusieurs organismes communautaires, un allègement de la tâche des intervenantes jeunesse aussi. Le rapport final de la commission qui est présidée par Régine Laurent propose aussi de modifier la loi sur la protection de la jeunesse. On veut créer une obligation de force, en fait, pour assurer la continuité des soins et la stabilité de l'enfant quand il est de retour dans son milieu familial, là, et que c'est pas possible quand on constate tout ça. On l'enlève à nouveau. On veut aider quand même les familles biologiques aussi et les accompagner, les soutenir. Ouais. Pas toujours facile, mais ce sont les principales recommandations qu'on a mis dans ce rapport d'hier. On la sentait fébrile, Régine Laurent, de rendre ce rapport-là. Elle a nommé absolument tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, des gens qualifiés, des gens qui ont été à l'interne dans la DPJ ou d'autres qui ont eu à côtoyer. Il y avait des juges, des gens qui ont vraiment mis la main à la pâte là, pour essayer d'aider ces gens-là. Ce qui ressort et qui fait plaisir à plusieurs personnes, c'est le rôle des intervenants-intervenantes, qui bien souvent a été oublié dans certaines recommandations, mais là, on veut alléger leurs tâches le plus possible. Pas chose facile, par exemple.
Ça prend du monde.
Ça prend du monde, mais ça prend aussi une meilleure gestion. En ce moment, ils sont en négociation pour leurs conditions de travail, et ce qui est très difficile aussi avec le gouvernement. On parle beaucoup de la santé en général. On parle du milieu de la construction. On parle de l'éducation. La DPJ est un peu dans la même soupe là, en ce moment.
C'est extrêmement compliqué. Là. Puis moi, en passant, j'ai toujours été assez optimiste par rapport à ça parce que on dirait que j'ai tendance à faire confiance à Régine Laurent.
Mm-hmm.
Elle me donne l'impression là, que, puis je sais que c'est pas parfait, mais elle me donne l'impression d'être là pour les bonnes raisons, de travailler de la bonne façon.
Ce que tu ressens est dit par plusieurs personnes aussi. Là, je pense que vous êtes une bonne gang à y faire confiance.
Des gens qui la connaissent aussi, qui l'ont côtoyée alors qu'elle a porté divers chapeaux, autant comme analyste politique, présidente de la FIC et autres, qui disaient c'est la bonne personne pour ça. Maintenant, ben c'est sûr que j'ai peur qu'on applique pas trop les recommandations, ça c'est une affaire. Mais je pensais que ce serait plus draconien que ça. Puis je me trompe probablement, parce que moi, je suis pas un expert, mais en même temps, je vous donne quand même mon impression de citoyen, puis de citoyen qui, comme les autres, a été affecté par les histoires des dernières années, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que il y avait un problème là qui était organique là, dans la façon dont la DPJ est organisée, puis il y avait beaucoup de problèmes d'imputabilité, de communication entre les organismes. Tu sais, la petite Rosalie Gagnon, c'était ça le problème, c'est que tu sais, sa mère était dans un centre, a sacré son camp, puis il y a personne qui a
on l'a mise dehors, oui.
On l'a sacré dehors, puis il y a personne qui a pensé appeler puis dire là faudrait que quelqu'un s'occupe
elle
d'elle.
Elle vient
là.
De partir,
on
c'est maintenant là.
Tu sais, elle a un enfant avec elle, elle a des problèmes de consommation et on. Ben, le résultat, c'est qu'on a retrouvé le corps du bébé dans une poubelle.
Est-ce que ce que tu dis est peut-être dans la branche, justement, qu'on donne plus de temps aux intervenants, intervenantes sur le terrain? Parce que je te donne un exemple. Moi, c'est souvent ce qui m'est rapporté, là. C'est quelqu'un va se lever dans sa journée, va prendre son petit café, travaille dans la DPJ, a 5 dossiers à faire dans la journée. Il suffit d'une urgence, un enfant à sortir immédiatement de son domicile.
Les 5 dossiers prennent le bord.
Les 5 dossiers ont pris le bord, mais c'est peut-être ça. Que le 4e, le 5e était urgent aussi dans sa journée. Fait que ça peut être reporté souvent, parce que peut-être que le lendemain, tu vas essayer de gérer tes 2 premiers dossiers, puis ça va te prendre plus de temps.
J'achète ça.
Mais après, tu peux travailler le soir, mais t'as ta famille aussi. Ils sont étouffés pour plusieurs intervenants, intervenantes qui peuvent peut-être nous donner comment ça se passe sur le terrain, mais encore là.
Ah, j'achète ça, parce que ça prend des gens. Mais
tu sais, c'est parce qu'on plus de financement, plus d'argent.
Meilleures conditions.
Quand je dis je m'attendais à des choses peut-être plus draconiennes ou des choses peut-être plus organisationnelles, je sais pas, mais tu sais, le nombre d'histoires qu'on a entendues là de gens qui ont fait des signalements puis qui s'est rien passé ou que ça a pris un an, c'est peut-être ça l'enjeu. C'est peut-être
c'est
l'enjeu.
Est-ce que c'est dans la branche intervenant-intervenante que tu apportes?
Ça se peut plus, ça. Ça peut plus arriver, ça, quand tu dénonces un. Tu sais, parce qu'aussi, là, on va se dire, là, avant que tu appelles à DPJ pour dénoncer, mettons, un voisin, là, on s'entend-tu qu'il y a des dénonciations là où finalement, tu arrives là, puis il se passe rien, puis c'était pas vrai, c'est un faux signalement, ça peut arriver.
Oui.
Mais tu sais, avant que tu appelles, en tout cas, moi, je suis comme ça, là, avant que j'appelle là, pour
que ce soit
DPJ,
décisif.
C'est parce que j'en ai vu des affaires, là.
Puis ça n'a pas le choix d'être du cas par cas, là. Tu peux pas embarquer ça dans une structure, puis mettre des critères fixes que telle affaire, ben l'enfant, il s'en va, tu le laisses pas avec sa mère maternelle.
C'est peut-être trop rigide, t'as raison.
Ça peut pas être rigide, ça. C'est sûr, c'est du cas par cas, puis ça prend du jugement aussi un peu même, là.
Mais je pense à des histoires de famille.
C'est de retirer un enfant à quelqu'un, là. Ah.
Mais ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans le métier, puis qu'ils ont même pas le temps d'avoir une formation sur le sens du monde, là. Je pense à une de mes amies, là, qui, elle, est arrivée le jour même, puis c'était immédiatement en intervention. 3 jours plus tard, elle était au palais de justice. Puis elle dit, une chance que j'ai essayé de garder ma colonne bien droite, les 2 pieds ancrés au sol, puis que j'étais là pour les bonnes raisons. Mais elle dit, il va m'en manquer cette formation-là. Il va me manquer d'accompagner quelqu'un qui est ferré, que ça fait des années qu'il travaille, parce qu'après, je veux pas prendre de mauvaises décisions. En même temps, ça se peut qu'une nouvelle façon de faire, une fille qui est pas brûlée, qui arrive sur le terrain, ça peut aussi faire beaucoup de bonnes choses.
C'est clair.
Formation, essentielle si elle la trouve essentielle.
Ça va pas laisser tomber un dossier en disant, ah, ben ça ira demain, puis entre-temps, il y a quelque chose de
il faut toujours que l'enfant, il soit au centre puis au cœur de leur décision. Tout le temps. Et elle a dit ça hier, Mme Lorrain.
Oui, absolument. Puis c'est ce qu'elle martèle depuis le début. Dans certaines choses qui étaient sorties en novembre aussi, de nommer une directrice générale de la DPJ pour essayer de garder toutes les ficelles au moins dans le même panier puis que ça soit pas diffus à travers plein de personnes. Peut-être que ça va aider. C'était une recommandation qu'elle a faite et qui a été tenue. Donc, il y a quelqu'un depuis. À quel point, je peux pas vous dire, là, il manque de connaissances dans le domaine. L'autre affaire importante à souligner, qui peut-être, on ne ressent pas beaucoup de vagues de tout ça, mais tout ce qui est la gestion en mesure autochtone des familles au Québec, c'est hurlant et criant. Il y a beaucoup de conflits. Aller à cette île faire un tour, parler avec des gens qui y travaillent, là, c'est à chaque jour un combat. Et hier, on a pris une décision de recommander au moins le fait qu'il y ait une certaine autonomie du côté des nations autochtones, là. Mm-hmm. pour essayer d'avoir une collaboration avec eux. Parce que souvent, ben la porte, elle est extrêmement fermée.
Puis on dit, OK, de l'argent, il y a un auditeur qui marque un bon point, mais que je vais compléter. La personne a dit, l'argent qu'on va investir dans ces services-là, dans la DPJ, mais dans les autres services, puis dans les ressources, justement, pour aider le monde en difficulté, puis tout. Elle dit, on va les sauver sur ce que les enfants maganés vont coûter à la société une fois devenus adultes.
100%.
C'est vrai. Oui. Mais encore faut-il que tu utilises bien cet argent-là, ces ressources-là.
Mieux utiliser l'argent, c'est sûr.
Tu sais, moi, là, j'ai une chum qui est allée travailler pendant une couple d'années dans le Grand Nord. T'es-tu genre, je pense que c'était à Coudjouac qui était là, mais tu sais, dans le Grand Nord. Puis justement, avec des enfants dans des milieux qui allaient pas bien. Puis des milieux où il y avait de la. Ouais, puis tu sais, où il y avait de la consommation, de la violence conjugale et autres. Elle a fait ça pendant. Elle a pensé aller faire ça genre un an ou deux. Finalement, elle a fait, je pense, 5-6 ans certains, là. Parce qu'elle a vraiment fait comme, OK, il y a de quoi de. Elle aimait ça.
Je peux apporter quelque chose.
C'était challengeant. C'était une fille qui était dans la jeune vingtaine aussi. Fait que, tu sais, c'était comme si j'ai un moment dans la vie où je peux faire ça, c'est là. Bon.
Ouais, mais ça peut être satisfaisant, pense à ça, là, sortir un enfant du pétrin ou du trouble, puis l'aider à se développer puis à grandir, là.
Mais mon point, c'est que. C'est pas évident de trouver des gens pour aller travailler là.
C'est
quand tu sors de l'école, tu as fait ton cours à, je sais pas moi, à l'UQAM ou à l'Université Laval, là, ton premier souhait, c'est-tu d'aller travailler à l'autre bout? T'sais, pas nécessairement. Non. Fait que c'est pour ça que je te dis, oui, il y a une question d'argent puis des ressources, mais il y a une question de gestion aussi. Puis là, ça, c'est le bout qu'il va falloir surveiller.
J'ajouterais peut-être que la portion économique dont tu as parlé, c'est vrai qu'il y a des coûts qui vont être économisés bon à terme là, après un certain temps, mais ça, c'est l'argument pour convaincre ceux qui sont pas convaincus, là, parce que l'argument principal, c'est de sauver des 5, 10, 15, puis 20 ans d'horreur à des jeunes aussi.
Ben
ouais. Des jeunes qui sont dans des milieux difficiles, vraiment. Oui, puis, tu sais, on pense à ça, là, on pense aux résultats, puis à un moment. Mais il y a un intervalle. Moi, pendant la pandémie, je dis tout le temps qu'il y a des secondes, puis des minutes, puis des jours à vivre. Oui. Là. Ces enfants-là, ils ont des minutes à vivre aussi.
Mais quand on regarde le gros portrait, là, on parle aussi, là, on parle des enfants, mais faut refaire les maisons des aînés aussi, là. Je regarde le gros portrait pour le financement, là. Ça pousse pas dans les arbres qui sont en face de la station, là. L'argent, là.
Déjà qu'on en
parle. Ça va en prendre de l'argent aussi pour s'occuper des aînés. On l'a vu, là, dans les CHSLD, comment ça a été catastrophique, là.
Oui. On le sait depuis des années. C'est bien ça qui est catastrophique.
Je suis content que tu aies regardé par la bouche. Je pensais que tu me regardais quand tu disais le gros portrait. Ben oui, je souscris à ça.
Alors, je reviens ici à Québec pour le conseil de ville d'hier. En gros, ce qui est ressorti, c'est beaucoup de choses, mais surtout dans la journée d'hier où on a parlé des finances de la ville de Québec et la pandémie n'aura pas plombé ces finances-là. Bien au contraire, l'administration Labeaume était très heureuse de dire qu'on enregistrait un surplus record de 122 millions de dollars pour la dernière année. Nouveau record parce que le dernier datait de 2019 avec un record de surplus de 55 millions de dollars. Une situation qui s'explique, ben, faut l'expliquer parce que vous dites peut-être, je comprends pas, par des dépenses inférieures aux prévisions de 63 millions de dollars et des revenus supérieurs de 59 millions de dollars. Le maire Labeaume était très heureux de ça, mais il y aura quand même tout le chemin de croix à faire après pandémie là, qui est observé au loin pour les entreprises qui vont fermer, les entreprises qui ont encore besoin d'aide. Puis là, ça, je te parle juste du secteur entrepreneurial.
Mais ce que j'ai compris, c'est quand même intéressant, hein, parce que c'est ça, les prochaines années vont être difficiles, on s'entend, on se relève d'une crise, c'est normal.
Oui.
Mais avouez que personne n'avait vraiment prévu ça.
Un surplus.
Ben dans le sens où ce qui s'est produit, c'est que finalement, les dépenses de la ville ont été limitées. Ben, il y a eu des programmes d'aide aussi, tu sais, du fédéral et autres pour la ville.
La moitié de ça, c'est à peu près de l'argent qu'ils ont reçu.
Sauf qu'ils ont quand même clamé que malgré cette aide-là, là, ces subventions-là, on aurait eu peut-être un 60 millions là, de surplus.
Parce qu'il y a eu des dépenses en événementiel. Il y a du personnel de la ville qui a été mis à pied.
Les arénas qui ont été fermés.
Bref, c'est ça. Fait que, au niveau de l'entretien, une pleine installation et autres, on a limité les coûts. Puis c'est ça l'affaire qu'il y a. Il y a tellement de gens qui se sont achetés des maisons que la taxe de bienvenue, les taxes municipales, ça fait augmenter la valeur des maisons.
Hey, juste en taxe de bienvenue, c'est 9 millions en un an. C'est énorme.
Ben merci.
Bienvenue au nouveau Québec.
On a 2500, à peu près 3000 à la ville de Lévis là, qui provient de famille Charon-Fontaine.
mais comme on le disait, là, cet argent-là, on l'a pas tant que ça dans les poches parce que dans les trois prochaines années, sont déficitaires à 100 millions au total ou à peu près. Fait que cet argent-là va repasser là.
Ouais. Après Lévis, Saint-Augustin des Morts, ben, la ville de Québec veut aussi son complexe aquatique. Tu vas pouvoir aller faire un petit peu de crawl, mon cher Paul, si ça t'intéresse, dans des installations.
C'est la grenouille, ça?
Oh, c'est comme ça.
Non, ça, c'est papillon. Ça.
Ah, ça, c'est papillon.
C'est papillon.
Oui, c'est papillon.
Crawl.
Crawl, c'est ça.
Crawl, tu dégages.
Et brasse.
Pardon.
C'est
oui.
Ça.
C'est ça.
Brasse, c'est comme.
Pardon pour tous ceux qui ne sont pas sur Twitch.
Oui.
Encore là, vous n'avez rien manqué, on ne savait rien.
Quand tu avais juste l'audio, c'était juste comme des gens qui nommaient avec des enthousiasme leur sorte de nage qu'ils connaissent. D'eau.
Mais la brasse. Là,
boy, t'as c'est glorieux, toi.
La brasse au secondaire, là, pourquoi?
Hein?
Pourquoi ils nous apprennent ça? T'as pas fait de piscine au secondaire?
T'es-tu malade, toi?
OK, nous autres, fallait apprendre la nage sur le ventre, la normale. Après ça, sur le dos, l'autre normale.
Là, dans le fond, là, on dit crawl, brasse, mais c'est le petit chien, la grenouille, puis c'est plus ça que ça s'appelle, là.
Ouais. Non, mais OK. Mais t'as papillon, puis t'as crawl. Là. En tout cas, il y en a deux là, que je comprends pas pourquoi on apprenait. Papillon, c'est sûr, puis celui-là qui est pas normal sur le ventre.
Let's go, c'est pour vous faire bouger. Alors, vous allez pouvoir bouger dans un complexe aquatique nouveau genre à Québec. Ça serait d'ici 5 ans qu'on veut mettre sur pied, surtout dans le nord de la ville en ce moment.
Oui.
Ce serait sur le terrain de l'ancien jardin zoologique
qu'on
veut le mettre.
Où il va y avoir une école, d'ailleurs.
Oui, on a même deux écoles, dans ce coin-là, qui vont se construire. Donc,
complexe aquatique proche de l'école, c'est brillant.
C'est brillant.
Mais il y en a un à Saint-Jean-Eudes. On peut aller se baigner à Saint-Jean-Eudes. Il y a une piscine qui est publique.
Oui. Mais je pense que c'est sur réservation, vu c'est les
possible.
Cours. Là,
oui. Mais belle, cette piscine-là est assez récente, d'ailleurs, la piscine à Saint-Jean-Eudes. Il y en avait une à l'Arpidrome. Je sais pas si elle est fonctionnelle encore.
Il y a tellement eu de travaux vieille, à l'Arpidrome dans les dernières années. Je pense qu'ils ont revampé. Il y en a une à...
Quelle c'est ça?
À Charlebourg.
L'Arpidrome, c'est à Charlebourg.
Okay. Sinon, Sylvie Bernier, à Sainte-Foy, à Rochebelle, nous autres, c'était ça. C'était là qu'on allait, là, elle est annexée à l'école.
Mais au nord, dans notre coin, là, c'est pas du luxe. C'est une bonne idée,
Il en manque.
Oui, oui.
Puis l'autre place qui en manque, c'est dans le coin de Cap-Rouge. Là, il y en a aucune piscine municipale. Il y a zéro.
Ah ouais?
Ouais. Moi, je viens de Cap-Rouge, je crois que je le sais, je suis au courant de...
J'essaie de penser au secteur que je connais. À Lévis, ça va très bien, nous autres, le centre culturel. Il y en avait au cégep Lévis-Lauzin, et piscine aussi, mais il y en avait une au collège de Lévis où j'ai fait mon secondaire.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, c'est une salle de pas de gymnastique, mais de cheerleading.
Cheerleading.
Cheerleading. Ouais. Ils ont rempli la piscine.
Populaire, le cheerleading.
Ouais. Puis vu que c'est une vieille piscine qui était souvent pleine de caca, vu que les enfants, moi, j'ai travaillé au camp de jour à ce place-là pendant plusieurs années. Puis,
un petit morlot.
Il y avait des.
Ah!
On évacuait la piscine une fois par semaine.
C'était comme le fleuve Saint-Laurent, finalement.
Le concierge à l'époque, il s'appelait Grizzly.
Hein?
Le truc de Grizzly pour.
Sympathique, ça.
Pour nettoyer la piscine.
C'était sa job, ça.
C'était une piscine au chlore, mais tu sais, bien évidemment que t'es au chlore, mais. Il était chloré. Fait que, tu sais, quand il y avait un petit pot dedans, souvent, il se désintégrait assez rapidement.
À cause du chlore.
Il se ramassait mal à la puise. On sortait tout le monde de la piscine. Il y avait aussi un taux très élevé de crème solaire dans cette piscine-là.
D'accord,
parce qu'on cremait les enfants, on en faisait des petits bonshommes, des petites bonnes femmes de neige, tu sais, puis après ça, on s'envoyait dans la piscine. Fait qu'il y avait tout le temps un petit film au-dessus de l'eau. On aurait dit que l'eau, c'était de l'huile. Et puis, elle était chlorée. Fait que, tu sais, des fois, il y avait un petit pot. Là, il se désintégrait un peu, fait qu'il se ramassait mal à la puise. Donc, le truc de Grizzly, quand il y avait une évacuation de la piscine, c'était traitement choc au chlore.
Oui, monsieur.
Le lendemain, elle est prête.
Tout est correct. Il n'y a pas de problème.
Fait que la piscine a fermé un 3-4 heures le temps de faire bon traitement choc.
C'est
là.
Ça.
Puis une fois que le traitement choc était fait, puis tu sais, mettons, là, tu prends une grande chaudière de soupe, tu mets une petite goutte de quelque chose dedans, tu le dilues, ça te fait de l'homéopathie.
Ouais.
Ben, tu sais, là, c'était comme un peu le même principe.
C'est bon.
Tu poupes dans la piscine, tu mets du chlore en masse, tu dilues ça. Puis,
vive les piscines privées.
Est-ce qu'on sait si Grizzly est toujours responsable de la piscine?
Je pense qu'il a pris sa retraite.
Oui.
Ben, la piscine n'existe plus, c'est rendu le palace de Charlingham.
C'est vrai, ils ont mis
un frame, je pense que c'est en bois, ils n'ont pas rempli de béton.
Grizzly travaillera au prochain complexe sportif aquatique.
Non, mais lui, il était
l'expert
écœurant.
Des petits.
La job qu'il avait à faire, tu sais.
Il n'était pas sauveteur avec ça.
Il était super smart. S'il avait fallu. Non, c'était un genre de moteur, c'était un tough, là.
Ouais.
Lui, il coupait ses botches de. Il fumait des clubs fortes, puis il coupait ses botches pour que ça rentre plus. Parce que.
Ben,
il
va bien mettre du chlore à pocheter.
Il prenait ses breaks.
Il aime ça fort, Grizzly.
De manière à ce que.
T'as pas Grizzly pour rien.
Non, c'est ça. Mais il faisait de la moto.
Ben oui, avec
c'était,
ça.
C'était un tough, là.
Café, pas de crème.
Non, tu sais. Puis là, il s'installait sur le comptoir de réception du centre là, sportif où il y avait le truc. Là. Puis là, il roulait des clopes. Puis à un moment donné, il avait arrêté de rouler ses clopes. Puis parce qu'il fumait des clopes indiennes, là, pas de botch. Là. Puis là, à un moment donné, il avait commencé à acheter des clopes. Il coupait le botch parce que ses pauses n'étaient pas longues. Là, au lieu de prendre 15 minutes de pause, il prenait 3 fois 5.
Ouais.
Puis il avait le temps de s'en aligner 2 quand il coupait les botch.
Il coupait le filtre. Ah ouais, par là.
Fait que.
C'est un gars quand même assez ordonné.
Puis il changeait pas l'eau de sa Zamboni non plus.
Droit au but.
Ah. Tu sais, la Zamboni à plancher, là.
Oui, oui.
Lui, il passait ça, mais tu sais, l'eau, c'est parce que tu mets du savon là-dedans, ça nettoie. Ouais. Et puis, changer l'eau, c'est pas non plus nécessaire.
Mais t'as le savon direct sur le sol, lui, ou.
Non, mais tu mets du savon dans la machine, puis. Ah, il y a des belles années. Pas de ça, qu'est-ce qu'on disait?
Salutations à Grizzly. Hey, change de sujet, tout de suite, je vais te parler des nouveaux locaux de l'Aube-Rivière là, dans le quartier Saint-Roch qui ne font pas l'unanimité. Il y a un citoyen hier, Simon Gauthier, qui a soulevé plusieurs problèmes dans la période de questions à l'hôtel de ville. Il dit qu'il n'est pas le seul à avoir abordé cette situation-là, mais en gros, ce qu'on dit, c'est que le paysage de Saint-Roch a beaucoup changé depuis que l'Aube-Rivière est rendue sur la rue du Pont. Là. On dit, c'est pas une histoire de gens qui flandent, c'est pas une histoire de gens qui vont consommer de la drogue ou de l'alcool. Là, moi, ce que je vous dis, c'est ce que je constate, qu'il y a du vandalisme, du vol, de l'intimidation. En ce moment, il y a des gens malades, des pushers, des personnes agressives qui passent. Et nous, on est sur nos gardes tout le temps. Donc, ce serait une situation qui a changé du côté de Saint-Roch. Et c'est, bon, bien sûr, au dire de certains citoyens. Après, le maire Labombe a dit, oui, mais on ne peut pas faire autrement que d'essayer d'aider ces gens-là en ayant un établissement comme l'Aube-Rivière. On a des itinérants sur le territoire de la ville de Québec. Il y a plusieurs questions en arrière de ça. Est-ce que c'est la pandémie, la mauvaise drogue qui fait changer autant l'environnement de Saint-Roch? Parce qu'à base de l'Aube-Rivière, ça fait des années que ça existe et c'était les mêmes gens qui y entraient.
Mais c'était deux rues à côté. C'est surtout ça qui est weird. Sauf que il y avait quand même... Si vous êtes jamais vous promenez autour de l'Aube-Rivière, mais littéralement autour... Pas juste devant la gare du Palais, là. Derrière, il y avait comme un stationnement, puis il y avait beaucoup de monde qui passait beaucoup de temps là, puis ça se passait pas mal derrière l'Aube-Rivière. Puis dans les petits carpeaux, dans les petits portiques devant les galeries d'art, ces choses-là. Mais c'est littéralement deux rues à côté. Ça, j'ai vu ça, le Saint-Roch, depuis l'arrivée de l'Aube-Rivière dans Saint-Roch.
T'as déménagé chez ton voisin.
T'étais, tu sais, je veux dire, la limite Saint-Roch puis Vieux-Port, là, c'est genre la rue de l'hôtel du palais de justice, maintenant, là, tu sais. C'est de l'autre bord de la rue, là, littéralement. Ça m'a surpris, moi, que ça soit, ah, mon Dieu, c'est rendu vraiment. Mais je pense que c'est parce qu'il y a comme un rayon autour de l'Aube-Rivière, là, de, même pas 100 mètres, là. Il y a un rayon de 50 mètres autour de l'Aube-Rivière où il se tient pas mal de monde, là, tu sais. Mais ça m'a surpris qu'il n'y ait jamais vu de monde tenu puis de monde qui chie partout. Puis,
mais il y a aussi beaucoup d'histoires. Sans mépris. Il y a beaucoup d'histoires sur ça. Puis là, je ne veux pas dire que c'est nécessairement que des consommateurs, là, mais beaucoup d'histoires de mauvaise drogue depuis le début de la pandémie. Est-ce que ça peut être juste des comportements qui sont exacerbés pour plusieurs raisons puis que là, finalement, ça frappe aux yeux puis on cherche une solution ou encore une explication est le bon mot à tout ça puis on se dit c'est le déménagement de l'Aube-Rivière? Je ne sais pas, mais
ben, en même temps,
on est là-dessus.
Si ces gens-là n'étaient pas là avant le déménagement de l'Aube-Rivière, il y a un timing. Là, mais c'est vrai que la drogue est épouvantable depuis le début de la pandémie parce qu'ils ont de la misère à faire, venir de la dope de l'Amérique, des États-Unis, mais qui provient du Mexique et de l'Amérique du Sud.
Puis ils coupent avec plein de cochonneries encore plus. Là. Pis, mais ils ne parlent pas de présence, ils parlent de comportement. Fait qu'ils disent, c'est pas nous là de voir des gens flâner, de voir des gens chez par terre, de voir des gens qui s'injectent la drogue ou qui boivent de l'alcool, c'est pas ce qu'on dit qui est problématique. Ce qu'on dit, c'est l'agressivité qu'on constate dans les rues qui aurait changé selon certains citoyens.
Tu sais, j'ai un chum moi, qui reste vraiment proche de là où était l'Aube-Rivière. Encore là, ça a déménagé à deux rues, mais il restait vraiment pas loin de là où était l'Aube-Rivière. Puis il déménage prochainement d'ailleurs. Là, puis il me disait, tu sais, à un moment donné, là. En plein jour, là. Tu sais, aussi, avant, c'était des affaires qui testaient plus le soir. T'sais. En plein jour, là, ça gueule, là, tu sais. Puis, c'est réveillé à maintenant à nuit. Il y a quelqu'un qui essayait de défoncer sa porte en pitchant une table dans la porte, tu sais. Puis, il y a une fenêtre dans la porte, là, tu sais. C'est comme, à un moment donné, là, c'est assez éveillé. Effectivement, depuis le début de la pandémie, là, ce genre de comportements-là sont exacerbés. Mais c'est juste, je m'explique encore mal comment ça se fait que les commerçants de Saint-Roch les voyais pas avant, mais les voient là.
S'offusque là, puis...
Je les crois, là. C'est pas que je remets en doute leurs paroles. C'est juste, je me dis, il y a vraiment eu un déplacement de 200 mètres.
Éric de l'Aube-Rivière, Éric Boulay, il aura sûrement aussi son hypothèse personnelle à force de côtoyer ces gens-là, là, puis de travailler avec eux.
L'ancienne bâtisse, ils font quoi avec ça? On sait pas. Hein?
Je pense que ça a été vendu faire un hôtel.
Okay.
Ou bien, ça. Je sais pas si ça a été vendu, mais il me semble, à un moment donné, des cartons, il y avait
c'est
quelqu'un
un endroit
qui voulait faire
assez intéressant. Là.
Un hôtel avec ça. Mais c'est parce que ça a besoin d'amour. Là. Moi, il y a deux, trois ans, je suis allé visiter.
Oui, clairement.
Il avait fait faire plus de tours à des journalistes là, pour aller voir. C'était la foule, mais à la bombe faisait à manger. Tout, là.
Ils ont mis des panneaux, je pense, des panneaux de Venise.
Ben, ça a besoin de.
Oui.
Puis ça va être des travaux compliqués parce que c'est extrêmement vieux. Puis, il y a des règles de patrimoine à respecter. Pis
mais un
ça,
hôtel,
là,
ça se pourrait, là?
Ben, ça aurait bien
c'est
du
très
bon
bien
sens.
Situé.
Ah oui, puis écoute, la gare du Palais, t'arrives dans ton train ou ton autobus, l'hôtel est en face. T'sais, d'après moi.
Sauf qu'on en a des hôtels, là, pas mal.
Oui, mais tu sais, pour des gens d'affaires, là, moi, je vois bien des gens d'affaires logés là. T'es vraiment collé sur la gare. Là.
Oui.
Si t'as 2-3 jours à faire, là, whoop, oui. C'est réglé. Puis... En tout cas. Ça fait-tu le tour? Par ça, on a-tu d'autres petites affaires?
Oui, bien, écoute, on a fait que 3 nouvelles là, en général, mais il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais y aller rapidement, là, avec le chalet de ski du Relais qui a changé temporairement de vocation pour accélérer la vaccination de masse. Alors, bon, 3 jours par semaine, on va pouvoir aller se faire vacciner là-bas. Environ 600 doses de vaccins qui vont pouvoir être administrées quotidiennement. On attend 2 autres centres de vaccination dans les prochains jours. Un aux Galeries de la Capitale et un autre à l'aréna Marcel Bédard. J'ai envie de vous souligner qu'il y aura, dans le stationnement de l'aéroport de Montréal-Trudeau, le premier site pour la vaccination à l'auto. Le ministre Christian Dubé devrait en faire l'inauguration aujourd'hui. C'est 4000 personnes qui pourront s'y faire vacciner et ce serait à la mi-mai selon la presse. Le passeport vaccinal qui fait énormément parler aussi parce que le gouvernement canadien est en train d'élaborer avec ses alliés du G7 un passeport vaccinal qu'il faudrait utiliser lors de voyages à l'étranger pour prouver qu'on a reçu un vaccin contre la COVID-19. Et ça ne fait pas l'unanimité, vous comprendrez. On parle beaucoup d'enjeux éthiques aussi. Le docteur Horacio Arruda qui en a glissé un mot là, dans les derniers jours. Il y aura point de presse à 13h aujourd'hui avec le premier ministre François Legault, toujours situation sur la COVID-19. Christian Dubé sera et le docteur Arruda également. On va peut-être parler du vaccin de Johnson & Johnson, le comité canadien d'experts en immunisation qui a donné le feu vert à ce vaccin-là. C'est une seule dose, mais il y a aussi des cas de thrombose qui sont reliés à l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, 17 aux États-Unis sur 8 millions de doses administrées. On parle de la santé mentale des Québécois. On dit que de plus en plus, là, les gens doivent attendre de longs délais avant d'avoir accès à quelqu'un qui peut les aider. C'est dans Le Devoir ce matin. On précise qu'environ 19 000 enfants et adultes figurent sur une liste d'attente, c'est 20 % de plus qu'en novembre dernier. Donc, novembre, c'est hier. 20 % de plus. C'est une montée fulgurante. On parle des habitudes de vie aussi. C'est dans le Journal de Montréal aujourd'hui, on dit qu'un an après la pandémie, les jeunes adultes québécois sont particulièrement nombreux à faire moins d'exercice, à manger de la malbouffe et à mal dormir.
Oui.
Impact directement, c'est un impact collatéral de la pandémie.
C'est pourquoi ils parlent.
Toi, c'était avant aussi, c'est quoi?
C'est un peu pire.
On parle des messages haineux aussi que reçoivent certains députés de l'Assemblée nationale. Dans Le Devoir, on dit qu'on a passé un questionnaire aux 125 députés et 95 d'entre eux ont répondu, et on le souligne, là, presque la totalité, qui a dit recevoir des messages intimidants, haineux ou menaçants sur les réseaux sociaux. Alors, la politique est particulièrement difficile en ces aires pandémiques. Première journée de grève pour les 33 000 membres de la Fédération du personnel de soutien scolaire CSQ et on prévient le gouvernement qu'il s'agit qu'un début. Alors, vous l'avez su ici, mesdames et messieurs.
Mesdames, messieurs.
Merci, Pascal. Fort intéressant. Il y a quelques affaires là-dedans qu'on va garder dans notre petite poche parce que j'ai plein d'affaires à dire sur le passeport vaccinal puis le vaccin Johnson & Johnson.
Oui.
Mais à un moment donné, on se calme les nerfs un petit peu. Alors, on va prendre une pause ouais, à 7h28 minutes. Grouillez pas parce que, évidemment, ben, c'est ça, on a des choses à vous raconter. Et j'ai peut-être quelques petits fémérides après la pause, je sais pas. On continue d'enquêter en passant là, pour le bruit dans Saint-Jean-Baptiste. Oui. J'ai quelqu'un qui me dit c'est Samuel de Champlain qui est sorti de sa tombe, il cherche la sortie. Fait qu'il creuse, j'imagine, et tout se passe sous terre. À date,
il va être mêlant, je vois le vert, Samuel, quand il va sortir. Là.
Il va avoir du monde avec des masques, il ne comprendra pas, lui. Et imagine si lui, il pogne la COVID. En tout cas, bref, 7h28, on revient.